Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs.
Bonjour pasteur Moïse.
Quand on se rencontre, on a toujours envie de dire « Oh, quel bonheur de le connaître !» L'ami qui ne reste jamais changé. Mes frères et sœurs, c'est inutile que je vous demande si vous croyez aux promesses de Dieu. Et si vous aimez les promesses de Dieu. Si vous souvenez des promesses de Dieu. Il y en a peut-être quelques-unes qu'on oublie. Et je voudrais attirer votre attention ce matin sur trois promesses oubliées. C'est embêtant, ça. Hein? Bon, quand on oublie son parapluie et qu'il fait du soleil, c'est pas gênant. Mais si on oublie son parapluie et qu'il fait du mauvais temps, c'est très gênant. Deux promesses que vous connaissez, que nous connaissons. Nous pouvons les réciter, les réciter, les réciter, et pourtant on les oublie. On oublie la puissance, le pouvoir, la force qui nous permet dans ces temps difficiles de faire front à l'hypocrisie, aux ruses et aux pièges, parce que nous sommes des enfants de la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute la voix de Jésus. Et la vérité n'a pas de biais ni de choses derrière, la vérité est toujours en face, vous êtes d'accord? Alors, voulez-vous que je regarde avec vous les promesses? Oui, allez, on y va. Prenez frères et sœurs, c'est pas difficile, l'évangile selon Marc. Lorsque vous avez l'évangile selon Marc, vous cherchez à trouver le dernier chapitre. Dernier chapitre de Marc, c'est le chapitre 16. Verset 14. Marc 16, 14. Enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru. Ils l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et nous pouvons dire... Mes frères et sœurs, dans tout ce que nous venons de lire là, qui est formidable, vous le connaissez par cœur presque, hein, il y a deux promesses qu'on a tendance à oublier. Et on va essayer de les découvrir. Parce que ces deux promesses que Jésus nous donne avant de monter au ciel, c'est précisé, sont capables de nous permettre de tenir fidèles envers et contre tout et de ne pas nous faire piéger et de ne pas nous non plus piéger les autres, mais d'être, je vous le disais tout à l'heure, des gens vrais. Notre force est dans la vérité. Alors, ce que le Seigneur dit ici, il dit aller par tout le monde. Ça vous va, ça? Moi, ça me va. Mais il nous dira aussi, ne vous étonnez pas de ce que le monde vous est. Donc, il nous envoie dans un climat où il y a de la haine contre les chrétiens. Est-ce que ça existe encore, ça? Bon, allez, continue. Nous nous trouvons aussi des fois dans des endroits où on menace des chrétiens. Est-ce que ça existe toujours? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des endroits où certaines personnes sont hostiles à l'Évangile? Même des fois dans nos familles. Hein. Est-ce que vous connaissez, vous, des personnes qui s'opposent à l'Évangile? D'accord. Qui sont ennemis de l'Évangile? Et qui aurait tendance à nous traîner à droite et à gauche, même devant les autorités politiques et judiciaires, s'il le pouvait. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Et Jésus nous dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile, c'est-à-dire afficher votre foi. Et pas n'importe laquelle. Il ne dit pas, vous afficherez les bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle que Jésus dit à ses apôtres? À votre avis, quelle est la bonne nouvelle? Jésus est? Oui! La bonne nouvelle qui dépasse toutes les autres. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Mes frères et sœurs, faut pas avoir honte de proclamer cette vérité, parce qu'il dit la bonne nouvelle. Et il dit ça, voyez-vous, juste après avoir dit à ses apôtres qu'il leur reprochait leur incrédulité parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il était ressuscité. Et mes frères et sœurs, c'est essentiel de nous rappeler et de nous souvenir tous les jours qu'il est ressuscité. Chez nos frères orthodoxes, quand ils se rencontrent, j'ai vu ça dans les pays communistes où lesquels j'allais, eh bien, quand les orthodoxes se rencontrent, ils disent « Le Seigneur est ressuscité !» Et les autres répondent « Oui, il est vraiment ressuscité !» Pourquoi c'est important? Mes frères et sœurs, on n'a pas d'autre chose à dire au monde que nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Vous remarquerez qu'on a facilement plus de possibilités de dire « Croyez-vous en Dieu ?» Êtes-vous croyant? Mais dire aux gens, Jésus est vivant. Ça, c'est plus difficile, vous ne trouvez pas? Et or, c'est ce que vous et moi, nous sommes appelés à faire, à annoncer cette bonne nouvelle. Et alors Jésus va même nous dire, je vous envoie comme des lions au milieu des brebis. Comme des brebis au milieu des loups, non pas d'un loup, mais des loups. Non pas des serpents, mais, non pas un serpent, mais des serpents. Non pas un scorpion, mais des scorpions. Jésus nous dit, je vous envoie là-dedans, dans un monde comme cela, et c'est, sans juger notre monde, c'est le monde dans lequel vous et moi nous vivons, le monde du travail, le monde dans nos cités, dans nos appartements, partout, dans la famille, c'est dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il est écrit que nous sommes comme des brebis, sans défense, sans puissance, enfin, extérieurement. Et cela, frères et sœurs, nous fait comprendre une chose, c'est que la foi rend tout possible, mais ne nous empêche pas la prudence, l'intelligence et la sagesse. Oui, Jésus l'a dit, soyez prudents, soyez sages. C'est pas parce que c'est la foi que, oui, tout va se produire, je vais vous le montrer. Car derrière tout ça, il y a des ruses de l'ennemi qui va annuler le message de l'évangile, bien entendu. Je vais vous lire un texte. Ne cherchez pas, je vais vous le lire. Après, je vous le dirai où. Vous allez me dire si ça vous arrive. C'est l'histoire d'un homme qui est poursuivi par des gens qui lui en volent. Poursuivi par des soucis, par des difficultés. Jusqu'alors, vous me suivez. Et voici ce qu'il dit. « Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent le feu. Je suis au milieu d'hommes qui ont des dents comme des lances et des flèches. Je suis au milieu d'hommes qui ont la langue comme un glaive tranchant. Je suis un homme dont mon âme est parmi les lions. Je suis entouré de gens qui vomissent le feu, qui me piègent, qui essayent de me faire mal. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui se retrouvent un peu dans un milieu semblable? Ouh. Un oui timide? Oui. Un mi normal? Oui. Un mi sûr? Oui. Plus ou moins. D'accord. Et cet homme qui a écrit ça va dire, après avoir dit « Mon âme est parmi les lions », il va dire « Ô Dieu, élève-toi, que ta gloire soit répandue sur la terre.
afin que tous ceux qui m'ont tendu un filet soient vaincus et que mon âme qui se courbait se redresse.
Alors je voudrais m'adresser aux frères et sœurs qui peuvent dire aujourd'hui, pasteur, mon âme est parmi les lions. Oui frère, je ne peux pas venir à l'église en souriant parce que je suis parmi les lions, je suis entouré de gens hostiles. Mais c'est normal, Jésus l'a dit, je vous envoie au milieu d'un monde hostile. Et dans ce monde hostile, vous et moi, mes frères et sœurs, nous sommes donc des brebis sans force et nous avons affronté trois forces du mal. Satan. Vous ne trouvez pas ? Les serpents. Non ? Les scorpions. Les loups. Bon, on va s'arrêter la liste, hein. c'est pas important. Frères et sœurs, nous sommes appelés, pas quand on est le dimanche matin ensemble, ça va, mais dans la semaine, à faire face à trois forces. Les forces de mort. Ben oui, parce que le loup, il mord. Pas vrai ? Le serpent pique, le scorpion, il brûle, et malheureusement, ils entraînent la mort. C'est pour cela que vous remarquerez que Jésus fait une magnifique prière dans l'Évangile, on appelle ça la prière sacerdotale, c'est dans Jean 17, je crois. Et puis, il dira à ses apôtres, quelque temps avant, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la joie, ma joie en vous. Je vous ai dit ces choses. » Puis alors, plus loin, il dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Mais il ajoute, « Que vous ayez en vous une joie parfaite. » Et en moi, vous ayez une joie parfaite. Et devant les puissances de la mort, deux éléments doivent être dans notre cœur, la joie de Dieu, qui est notre force, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Vous allez voir comment ça se fait. Regardons bien donc cette parole. En mon nom, qu'est-ce qu'ils feront en mon nom ? Ils saisiront des serpents. Serpents. Et ils boiront des breuvages mortels et ne feront point de mal. Voilà donc deux promesses. Nous sommes capables de saisir des serpents et nous sommes capables de boire un poison et d'en sortir vainqueur. Je m'explique. Frères et sœurs, vous savez ce que veut dire le mot serpent, le serpent ancien. Dès l'histoire de l'humanité, quand Adam et Ève ont été sur la terre, et à un certain moment, il est arrivé un animal, pas un singe, pas un perroquet, l'animal le plus rusé de la création. C'est pas vrai ? Si, si. Et vous remarquerez que dès qu'il commence à ouvrir la bouche, c'est pour briser deux choses essentielles, et c'est vrai encore aujourd'hui. Premièrement, mépriser ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il vraiment dit ? Mépriser la parole de Dieu. Et serpent tous ceux et toutes celles qui méprisent la parole de Dieu. Et serpent tous ceux et toutes celles qui se laissent mordre par ce serpent de mépriser la parole. Ce qui est écrit est écrit. Moi, j'aime bien Ponce Pilate pour une seule chose quand il a dit « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Pas besoin de faire des explications, ni de latin, ni de grec, c'est comme ça, d'accord ? Vous saisirez des serpents. Et ce serpent rusé, il va attaquer Dieu, moi, premièrement, il va attaquer la parole, d'accord ? Et la deuxième chose, regardez bien, il va attaquer non seulement ce que Dieu dit, mais il va attaquer les sentiments de Dieu. Il va dire, « Mais Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme lui. » Il essaye de faire croire que Dieu a de la convoitise, que l'amour de Dieu n'est pas sans intérêt, que Dieu tient à sa place et qu'il a peur de nous. Mais nous sommes en plein mensonge, frères et sœurs. Les deux premières ruses du serpent, c'est de mépriser la parole est de détruire l'image de Dieu, parce que Dieu est amour. La deuxième chose que je vois du serpent, c'est dans la cour de Pharaon. Vous lirez ça, c'est très important, c'est très, très utile. C'est dans Exode 7. Dans la cour de Pharaon, Dieu envoie Moïse et Dieu lui dit, prends son bâton, et voici les signes qui vont accompagner le message de Moïse. Jette ton bâton devant Pharaon. Il jette son bâton. Qu'est-ce qu'il devient ? Un serpent. Pharaon dit, mais on peut faire autant. Moïse est tout seul, hein, avec Aaron. Tandis que lui, il fait dire des magiciens au pluriel, avec des bâtons au pluriel, qui, en jetant leur bâton, transforment non pas un serpent, mais des serpents. Et là, mes frères et sœurs, nous avons la contrefaçon, les faux miracles que Satan est capable de faire et qui nous ressemblent. Et qui, parce que tous ces frères et sœurs qui fréquentent les internets diraient « Oui, mais il y a ça, 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 ça. » Si c'est pas conforme à ce qui est écrit, c'est à rejeter. Merci Claude. Frères et sœurs, regardons, si vous voulez, ce qui s'est passé. Moïse a vu ça. Et Pharaon a dit, toi, sans ton Dieu, on est capable de faire autant. Seulement, regardez bien, quand Moïse a jeté son bâton tout seul qui est un serpent, le serpent a avalé tous les autres, parce que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est seul contre tous, et tous sont vaincus, et lui est vainqueur. Et c'est ce Dieu-là que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ce drôle-là qui, dans tous ces serpents qui viennent autour de nous, ne baissons pas les bras. Écoutons-le, ce serpent, quand il parle. Il siffle. Je vous emmène maintenant, oublions Moïse, et prenons Jésus-Christ, frères et sœurs. Jésus-Christ. Alors que Moïse, par la grâce de Dieu, tous les serpents ont été engloutis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fils de Dieu, est baptisé. Et après, il est entraîné par l'Esprit de Dieu, parce que l'initiative, c'est toujours Dieu qui l'a, c'est pas Satan. Et alors, il est dans le désert, il jeûne et il prie. Et pendant ce temps, il va être tenté. Et à la fin de son jeûne, Satan va s'approcher, un plus. Et regardez le sifflement de Satan. Trois fois il siffle. Si tu es le fils de Dieu. Première tentation. Deuxième, si tu es le fils de Dieu. Troisième tentation, si tu es le fils de Dieu. Quand vous entendez le sifflement de l'adversaire, vous dites ça, c'est un serpent. Même si vous ne le voyez pas, vous l'entendez. Satan ne peut que siffler avant de mordre. Je le disais l'autre jour, le Seigneur me montrait qu'un serpent, ça s'avance tordu, c'est-à-dire que ça remue à droite, à gauche, ou ça se dresse pour vous mordre, mais si vous l'écrasez, il devient tout raide. Jésus est vainqueur, à condition que nous restions dans la vérité. Jésus dit, le diable, il vient. Vous savez, il dit ça à un endroit, il dit, Satan vient. Mais je crois rien. Il n'a rien en moi. Mes frères et sœurs, que Dieu nous fasse cette grâce. Que Satan n'ait rien en nous. Même pas un petit serpent, même pas un petit orvé. Tout ce qui rampe, tout ce qui est faux, tout ce qui est hypocrite, tout ce qui est par derrière, pour essayer de détruire. Tout ça, frères et sœurs, c'est à rejeter parce que c'est quelque chose qui ne va pas exister au milieu de nous. Et il y en a, il faut mieux qu'ils nous lâchent que de rester comme des serpents, ou alors que ce matin au culte, on se trouve repris dans notre conscience, on dit « Seigneur, rends-moi droit par ta parole. » Regardez, le serpent, si je lis dans la parole de Dieu, je vois que il va en prendre un si, le plus terrible des si. Il va prendre la parole et va lui dire « D'accord, Jésus, eh bien, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Et il va citer l'Écriture.
Fais-le.
Bon, il va en citer qu'une moitié, ça joue, d'accord. Mais il va quand même en citer. Il va dire, ah, c'est écrit ça, oui, oui. Et si je suis qu'un fanatique, je vais dire oui, parce que c'est écrit, je le fais. Et si Jésus avait été un fanatique, il serait lancé du haut du temple et ils auraient été tués. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne doit pas être prudent, tempérant, sage, par la grâce de Dieu. Jésus ne s'est pas laissé tromper. Et vous avez ça, mes frères et sœurs. Des gens, vous les connaissez, qui viennent vers vous en disant, ah, vous allez, l'église, mais vous savez, moi, nous aussi, puis la Bible, c'est ça, la Bible, c'est ça. Vous savez, je vais prendre un exemple, mais je veux pas les juger, c'est les témoins de Jéhoviens. Là, je suis hypocrite, mais je veux pas les nommer. Ils viennent, vous discutez, c'est ça. Ah, puis on vous a enseigné ça. Oui, mais dans le grec et dans le latin, c'est pas du tout ça qui est... Bon. Dès que vous entendez ce sifflement, contraire à ce qu'est la parole de Dieu, dites comme Jésus l'a dit, arrière de moi Satan. Oui. Et cela va nous amener à comprendre quelque chose de tout à fait particulier. Où Satan, frères et sœurs, nous arrête, nous empêche d'avancer dans la foi, nous décourage. Ça arrive, ça. Ou s'il ne peut pas nous arrêter, il va nous pousser. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Comme il ne pouvait pas arrêter Jésus, il a essayé de le pousser en se prenant des textes. Mais en sortant le texte de son contexte. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est sage. Et même, mes frères et sœurs, après tant d'années, après 65 ans de vie chrétienne, je peux vous dire que personne n'est à l'abri de se faire piéger. C'est pour ça, regardez bien que dans la prière sacerdotale de Jésus, il dit « Père, garde-les. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés. Père, maintenant je vais vers toi, mais garde-les. Garde-les. » Trois fois vous avez le verbe. Jésus sait très bien le danger. Et si vous êtes là ce matin, si je suis là ce matin, si nous sommes là ce matin, c'est parce que jusqu'ici, le Seigneur nous a gardés. Il nous a relevés. Il nous a consolés. Parce que il nous a donné la grâce de ne pas écouter. Le si en musique, c'est un bémol qui fait baisser. Le Dieu, dans sa grâce vivante, veut que nous connaissions cette promesse, ils saisiront les serpents. Ça, faut pas l'oublier. N'ayez pas peur. Alors, il nous a dit, voyons, l'adversaire vient devant toi, mais qu'est-ce que tu peux faire? Fuir? Non. Saisir. Et Jésus va même plus loin et dit, je vous donne le pouvoir, non seulement de saisir, mais marcher dessus. Pas écrit ça? Oui, oui, il est écrit, vous marcherez sur les serpents. Hein. Vous marcherez sur les scorpions. Et comme il veut oublier personne, et sur toute la puissance du monde de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous saisirez des serpents, vous marcherez dessus, vous ne serez jamais dessous. Dessus. Il n'est pas dit, ben alors, ah oui, mes frères, frère gentil, ouais, c'est vrai, il y a des pièges devant moi, il y a des serpents. Alors, il n'est pas dit recule, il n'est pas dit évite, il n'est pas dit saute, il dit marche dessus. Ça veut dire que Satan, s'il envoie des serpents, c'est pour nous arrêter, pour nous bloquer dans la vie chrétienne. Mais l'Écriture nous dit que celui qui marche par l'Esprit accomplit les désirs de Dieu. Frères et sœurs, ne nous laissons pas arrêter parce qu'il y a un serpent ou un lion, mais marchons dessus, soyons forts. L'Écriture nous dit « résistez !» Résistez avec une trouille ferme. Résister avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de vous. Il ne nous est pas dit à nous de le tuer. Mais c'est écrit, vous chasserez des démons en mon nom. C'est-à-dire, vous les éloignerez. Vous avez déjà chassé un moustique qui tournait là? Vous avez déjà chassé une mouche qui vous embête? Vous ne lui avez pas dit, petite mouche, ça me ferait plaisir que tu t'en ailles. Et au fur et à mesure que vous la chassez, elle revient, elle tourne quand même, mais vous continuez jusqu'à ce qu'elle disparaisse, pas vrai? Eh bien, avec les démons, c'est pareil. On doit les tenir éloignés. Et s'ils sont éloignés, c'est parce que nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous ne les détruisons pas, c'est Dieu qui les détruit, pas nous. Nous, on les chasse au nom du Seigneur Jésus. Et cela, mes frères et sœurs, nous fait penser à cette parole de l'Écriture du psaume, je vérifie, hein, 91, verset 13. « Tu marcheras sur les serpents, sur le lion, sur l'aspic, sur le petit lion tout jeune. » Et vous avez vu la dernière phrase du psaume 91 ? Tu marcheras même sur le dragon. Sûr. Quittez le culte, mes frères et sœurs, en disant cette semaine, par la grâce de Dieu, je vais marcher sur la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Et si je suis avec la parole de Dieu, Satan ne sera pas ni devant moi, ni derrière moi, mais sous moi, par la force qu'il me donne. Voilà la première. Deuxième promesse, que je voudrais aller vite maintenant, c'est, oui, au fait, confirmation, vous voulez une confirmation, ils seront piqués par les serpents, ben, vous savez, du temps de Moïse est arrivé, ils sont faits morts. Et Dieu avait trouvé le modèle, avec un serpent d'airain, un serpent mort. Et Jésus va jusqu'à dire, de même que Moïse a étendu un serpent d'airain, de même. Dieu a tant aimé de monde, et il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mes frères et sœurs, la grande force, c'est pas mon énergie, c'est pas ma connaissance intellectuelle, c'est la puissance de la croix. Jésus-Christ est mort. Et parce qu'il est mort, il a détruit les autorités. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées en spectacle. C'est écrit en triomphant d'elles par la croix. Ni vous, ni moi. Mais lui, il l'a fait. En son nom. C'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur et je peux dire comme David, mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Alors un exemple, pour vous montrer que ça s'est produit, à l'île de Malte. Il y avait près de 300 personnes avec Paul. Avec 300 personnes, avec Paul, il n'y a plus rien, c'est des naufragés. Hein? Ils ont juste gardé leurs cheveux, mieux que moi. Ils ont gardé leurs cheveux. Dieu l'avait dit. Mais, qu'est-ce qu'a fait Satan? Il a essayé de rendre caduque la promesse de Dieu. Ils saisiront des serpents. Un serpent a saisi la main de Paul. Et les gens disaient, oh, regardez, c'est intéressant, si, tout de suite le chant du diable, si cet homme, assurément, si cet homme était un serviteur de Dieu, ça ne serait pas produit. Voyez-vous, la puissance du serpent qui va jusqu'à là, eh bien l'apôtre Paul n'a pas dit, oh, et quelqu'un a-t-il une trousse de secours? Appelez le 17. Quelqu'un a-t-il un vaccin en anti-serpent? Non, on n'a même pas pensé à ce coup-là, hein. Et il a continué, et Dieu s'est glorifié. Ce qui est arrivé à Paul, ce que Jésus nous dit, doit être aussi pour nous un sujet de joie et de victoire. Et je voulais terminer rapidement, pas le temps de le développer, mais ils boiront des breuvages mortels. Et cela leur fera pas mal. Des breuvages mortels, voyons. Tiens, tenez, les Juifs, quand ils sont sortis de la mer Rouge, et qu'ils ont eu soif. Et ils ont vu une mare d'eau, là, qu'ils ont appelé Marat. Ah, ils se sont jetés là-dessus. C'était amer, c'est-à-dire mortel. Ils ont bu un breuvage mortel. Mais, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a lancé un bois. Le bois désigné par Dieu, pas n'importe lequel. Et au moment où ce bois a touché l'eau, tout est devenu pur. Et qu'est-ce qui a été sur le bois? Et qu'est-ce qui est mort sur le bois? Et qu'est-ce qui a souffert sur le bois? Donnez-moi son nom, il s'appelle? Voilà. Voilà. Et alors l'eau devint douce. Et nous fait chanter, des fois on va pas chanter, que la vie est belle. Oh, la paix que Jésus donne.
Vous direz, oui, mais enfin, c'est un peu exceptionnel. Vous trouvez que c'est exceptionnel? Ouais, je trouve pas, parce que je pense que Élisée, avec ses, vous savez, il avait une école biblique dans les champs. Nous, on a les Champs-Élysées, mais là, il y avait autre chose. À l'école biblique, ils avaient faim, les jeunes. Ils ont dit, alors tu nous permets, on va casser la croûte, on va se faire quand même, on va sortir du confinement, hein. Allez, on va se payer une bonne soirée, hein. On va s'éclater. Ah, ils trouvent des champignons, ils trouvent des coloquintes, etc. Ils mettent ça, c'est formidable, il y a plein de couleurs. Et ils reviennent vers certainement Élisée en disant, ah, regardez Élisée, on n'avait jamais vu ça, c'est quelle ambiance! Mais l'Écriture nous dit, il disait ça parce qu'il ne connaissait pas le poison. Et je pense à toute notre jeunesse, mes frères et sœurs, et tous ceux qui font des études et qui sont remplis de certaines philosophies. D'ailleurs, c'est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Ne vous laissez pas séduire par les philosophies des hommes et par les traditions des hommes. Ne soyez pas la proie, car en Jésus, vous avez tout pleinement. Oui, l'eau devient saine. Oui, mais là, on me dit, c'est pas de l'eau, c'est un potage. Attendez, Dieu les a laissés faire cuire, leur potage. Et Dieu les a laissés goûter. Ah, ils se sont jetés là-dessus, vous savez, comme des jeunes ados affamés. Hein? Hop, ouh! Et des coliques qui n'étaient pas apostoliques, ni évangéliques. Ils les ont pliés en deux. Et alors, ils ont chanté un chœur. Non pas que la vie est belle, ils ont dit, la mort est dans le pot! Homme de Dieu! La mort est dans le pot! On va mourir! Qu'est-ce que fait Élisée? Fait venir les pompiers? Intoxication alimentaire? Prends un petit peu de farine. Il met farine dans le pot. Puis il n'y avait plus rien de mauvais. C'est pas beau, ça? La farine, ça vient d'où? D'un blé. Mais d'un blé écrasé. Qui est devenu poudre. C'est pas la croix, ça? Le grain de blé. Le pain de vie. Et il a accepté, mes frères et sœurs, d'être écrasé, afin que lorsque nous mangeons une vie immangeable, il puisse la purifier et faire de nous de nouvelles créatures. Oui, ils saisiront des serpents. Promesse à ne pas oublier. Ils boiront des breuvages mortels, promesse à ne pas oublier, et cela ne refera pas de mal. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter. Juste en vous citant Jésus. Parce que ce que Jésus dit aux autres, il le fait. Dans une nuit, j'ai de Gethsémané, il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. C'était laquelle coupe, ça? C'était la coupe de la gloire ou la coupe de la douleur? C'est la croix, la souffrance. Et son sueur, et son front a sué, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et trois fois, elle a dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe mortelle. Mais meilleurs, mes frères et sœurs, il l'a bu, la coupe mortelle. Et la coupe mortelle l'a fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité. Il ne fera aucun mal, parce que la victoire est dans le nom de Jésus. Vous direz, oui, mes frères, c'était vieux, ça. Vieux, deux promesses. Les serpents, au lieu de t'arrêter, marchent dessus. Les fameuses philosophies mensongères ne les avalent pas, n'avalent pas tout. Mais entre ces philosophies et toi, mets-y Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, et Jésus-Christ ressuscité. J'ai eu l'occasion d'être en Pologne pendant la présidence d'un certain monsieur Gomulka, époque communiste, et dont les chrétiens étaient persécutés. Le frère Roger Coppin, moi-même, nous avons été chargés par les Assemblées de Dieu de France de transporter à la fois des Nouveaux Testaments polonais et de l'argent pour aider. Parce que le régime affamait certaines églises. Alors, on l'a fait. On s'est fait arrêter parce que il y avait un chrétien qui c'était un faucheton.
dans l'église où on a donné. Il y avait une ancienne chrétienne qui faisait partie du KGB. Le pasteur en savait rien. Après, quand on lui a dit, oh, jamais qu'on savait, elle a répété au commissaire du KGB tout ce que nous avions fait et tout ce que nous avions dit. Et au moment de prendre l'avion, à Varsovie, c'était Giscard qui était encore là. Ils se sont jetés sur nous. L'église avait offert un petit chapeau en fourrure. Ils nous ont arraché. Et ils ont bloqué l'avion pendant 4 heures. On était en garde à vue. Oh, bah, ouais. Heureusement qu'on ne comprenait pas le polonais. Et je disais à Roger, Roger, qu'est-ce que tu penses? Comment on va se sortir de là? Oh, il me dit, de toutes les façons, on s'en sortira. D'accord. Et là, mes frères et sœurs, dans le commissariat, après notre garde à vue, il y a un vieux frère qui nous a accueillis et qui nous a dit ceci. « Mes frères, avant que vous rentriez en France, je suis pasteur d'une petite église d'une 30 âmes au sud de Varsovie. Ah, » c'est bien, frère, que Dieu vous bénisse. « J'ai 6 enfants. » C'est bien que Dieu vous bénisse, c'est une belle famille. « Frère, j'ai été arrêté, moi. » « Oui, comme vous. Oh, ils m'ont arrêté. » Et ils m'ont battu. Et quand j'aurais demandé, mais pourquoi vous me battez? Pourquoi vous me mettez en prison? Pourquoi? J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un ministère. Parce que monsieur le pasteur, dit le commissaire du KGB, vous prêchez un message qui trompe les gens. Un message qui est faux. Qu'est-ce qui est faux? L'évangile est faux. Comment ça? Oui, je vais vous le démontrer. Et il prend le si de ça, du serpent. Il dit à ce vieux frère, il dit, il est écrit, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera pas de mal. Vous le croyez, monsieur le pasteur? Oui. Eh bien, buvez. Et lui ont amené un petit flacon de cyanure. Prenez-le. C'est vrai ce que vous avez lu là? Voyez, vous enseignez le mensonge. Et pour me convaincre, nous a dit le pasteur, ils ont pris quelques gouttes et l'ont donné à un chien qui est tombé raide mort. Il dit maintenant, buvez. Si vous ne buvez pas, c'est que vous êtes un menteur, donc vous allez aller en prison. Et le frère nous a dit, mes frères, tout en moi tremblait. Mes os se remuaient. Mon cœur, ma femme, mes enfants, que vais-je faire? Le si du serpent, si tu bois. Alors, il nous a dit, en dernier sort, j'ai pris le verre. Je me suis tourné vers eux, en tournant vers le Seigneur, en disant, Seigneur Jésus, je ne veux pas te tenter, mais pour leur montrer que tu es ressuscité, tu te glorifies. Point. Et il me dit, messieurs, je bois au nom de Jésus. 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il n'est jamais tombé mort. Et la preuve, c'est qu'il nous a parlé. Et l'un des commissaires du KGB s'est converti. Et il a dit, Dieu est vraiment vivant. Et ce Dieu-là, il est avec nous ce matin. Adorons-le, bénissons-le, célébrons-le. Que toute notre âme le bénisse. Que tout ce qui est en nous bénisse en sa nom. Et que nous puissions tous lui dire, à toi. Qui? Encore. Brillant de lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? De quoi? Oh, ressuscité. Glory and praise the Lord of the world. À toi la victoire.